Rapidement, un peu, on va faire la présentation hein, de tous les travaux qui ont été conduits à Devoix avec Jean Cordoue. Je vais vous présenter un peu la méthode de travail qu'on a eue, hein, que Jean-Jacques Lasserre a déjà présenté les conclusions, mais comment on est arrivé à ces conclusions. Je pense que c'est important sur la méthode de travail, qui a participé, quels sont les regards techniques et juridiques qu'on a portés pour arriver à justifier la proposition d'une collectivité territoriale aujourd'hui. Alors, pour aller sur la première partie, hein, bon, Jean-Jacques Lasserre a évoqué hein, tout l'aspect historique, c'est que ce dossier-là, il a été engagé en 2009. L'élément déclencheur, hein, c'est la fin des pays. Concrètement, ça veut dire quoi pour nous? Je pense que c'est important juridiquement de le comprendre. Le Pays basque, il est reconnu pays au sens d'un arrêté préfectoral de 1997. Hein, c'est un arrêté du préfet qui définit le pays. Et la définition juridique du pays, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Pays basque, il est reconnu par la loi comme étant un territoire qui a la capacité à élaborer un projet de territoire et à passer un contrat pour mobiliser des financements sur un programme d'action qui est lié à ce projet de territoire. Et c'est dans ce cadre-là que la convention spécifique Pays basque et le contrat territorial ont été élaborés hein, depuis les années 2000. Donc la loi, à travers cet arrêté, donnait cette capacité, cette reconnaissance au Pays basque pour conduire ce travail. Dès l'instant où on met fin au pays, c'est ce qui va arriver. La loi de 2010 va mettre fin à cet adossement juridique. Donc ça veut dire concrètement, sans cet adossement juridique, la reconnaissance du territoire Pays basque et sa capacité à conduire les actions se trouve très fortement affaiblie. Et c'est ça qui a été l'élément déclencheur, hein, je dirais, pour aller examiner les trois scénarios que Jean-Jacques Lasserre a évoqués. Alors, je passe rapidement hein, les différents contacts en 2009-2010, au moment où le projet de loi sur la réforme des collectivités locales qu'avait proposé Nicolas Sarkozy a été débattu. Donc, il y a eu toute une série de rencontres avec les ministres, avec les porteurs des projets de loi, les parlementaires, pour faire avancer, faire exister, hein, je dirais, le dossier Pays basque dans cette loi. Bon, il y a eu, hein, à l'Assemblée nationale et au Sénat, des interventions des parlementaires, mais au final, je dirais, on n'a pas avancé hein, sur la reconnaissance d'un volet Pays basque dans cette loi. Et c'est au regard de cette non-solution qu'en novembre 2010, le Conseil des élus, il a pris la décision d'ouvrir un chantier et d'approfondir, du coup, les solutions juridiques et techniques qu'on pouvait imaginer. Alors, c'est dans ce cadre-là que le travail a été engagé. Et donc, comment on a travaillé? On a fait dans un premier temps un diagnostic de la situation aujourd'hui et on a examiné les hypothèses d'évolution. Alors, faire un diagnostic, ça veut dire quoi? C'est ce que disait Jean-Jacques Lasserre tout à l'heure. Si on devait se poser la question suivante, à l'échelle du Pays basque, si on devait conduire ou piloter un certain nombre de compétences qui nous paraissent prioritaires aujourd'hui, quelles seraient ces compétences? Et quelle nature de compétences il faudrait que le territoire puisse gérer? Donc, on a fait ce premier travail à partir de novembre 2011. On a mis en place plusieurs groupes de travail, mobilisant des élus du Conseil des élus et des membres du Conseil de développement. Et on a examiné tous les champs de l'action publique, hein, que ce soit des questions d'aménagement au développement économique, en passant par la culture, l'éducation, les questions environnementales. Tous les domaines d'action publique ont été examinés. Et c'est en janvier 2012 que les conclusions de ces ateliers ont été présentées. Et je vous dirai tout à l'heure hein, les éléments qui sont ressortis. Donc, tous les domaines d'action publique ont été examinés avec une priorisation de ce qui nous paraissent, de notre point de vue, les compétences prioritaires que le territoire devrait gérer. Deuxième chose qu'on a faite dans cette phase-là, c'est qu'on a demandé à l'UPPA, l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, et notamment à son laboratoire Pau Droit Public, hein, qui est dirigé par Jean Gourdou, d'examiner juridiquement quelles sont les solutions possibles. C'est-à-dire, nous, on travaille à la fois les compétences et on demande à l'université d'examiner les solutions juridiques. Voilà, ça nous paraissait ce que le cadre institutionnel, le cadre juridique français, aujourd'hui autorise en termes d'organisation juridique possible. Donc ça, c'est un deuxième travail qui a été fait. Un troisième travail a été fait également par Jean Gourdou et Jean-Pierre Massias. on leur a demandé de rencontrer une quarantaine d'acteurs institutionnels et politiques et de la société civile qui pèsent, je dirais, qui sont influents hein, sur le devenir de ce territoire. Et on leur a demandé de les rencontrer pour avoir leur point de vue, à la fois sur la situation actuelle et sur l'évolution ou pas hein, de l'organisation institutionnelle du Pays Basque. Donc il y a une quarantaine d'acteurs qui ont été rencontrés, dont le président du conseil régional, du conseil général, l'État à travers le sous-préfet de Bayonne, l'ensemble des présidents des intercommunalités, tous les partis politiques ont été rencontrés, plus des acteurs de la société civile, les chambres consulaires, etc. Donc tout ce travail, c'était important aussi hein, d'avoir leur point de vue sur comment ils voyaient le devenir. Donc tout ça, tous ces travaux-là ont été synthétisés en mars 2000, pas 2010, mais en mars 2012, hein, donc c'était il y a un an, dans le cadre d'une assemblée générale qui réunissait le conseil des élus et le conseil de développement. Donc ça, ça a été, je dirais, les bases. On avait là les éléments concrets sur voilà les compétences qu'on veut, voilà les solutions juridiques qu'on a sur la table, et voilà aussi comment l'ensemble des acteurs institutionnels voient le devenir de l'organisation de la gouvernance du Pays Basque. Et c'est à partir de là qu'on est rentré dans une deuxième phase qui s'est déclinée en deux temps. D'abord, et très rapidement, le Conseil de développement du Pays Basque, hein, qui réunit 125 membres, essentiellement les acteurs de la société civile, hein, que ce soit les acteurs économiques, les acteurs sociaux, culturels. Le Conseil de développement, sur la base de ce diagnostic, a adopté un avis qui disait la chose suivante. Compte tenu de l'ensemble du panorama qui était proposé, une proposition était faite pour évoluer, c'est les termes de l'avis, évoluer vers une collectivité territoriale à statut particulier. On rentrera dans le détail concrètement qu'est-ce que ça veut dire. Et inviter le Conseil des élus, donc son partenaire, à approfondir cette hypothèse de collectivité territoriale. Ce que le Conseil des élus a fait à partir d'avril 2012, il s'est dit, dans le panorama, bon, voilà, on verra tout à l'heure, il y a chaque solution a ses points forts et ses points faibles, mais l'hypothèse d'une collectivité territoriale nécessite, je dirais, qu'on rentre un peu plus dans le détail. C'est le travail qui a été engagé donc, en avril 2012, et les conclusions ont été rendues en novembre 2012. Et comme le disait le président, le Conseil des élus a adopté en novembre 2012 une position, une délibération en faveur d'une collectivité territoriale à statut particulier. Et on expliquera le contenu. Alors, peut-être pour donner un peu plus de contenu sur les compétences ou les missions qu'il serait souhaitable de piloter à l'échelle du Pays Basque, les groupes de travail qui avaient fonctionné ont dégagé 8 domaines prioritaires. Voilà, s'il y avait à choisir, les 8 domaines seraient les suivants. Premier domaine, c'est les transports en commun. Donc, on a considéré que la question de la mobilité, la question des déplacements, c'est une question extrêmement importante sur ce territoire, que ce soit à l'intérieur du Pays Basque que sur le littoral, que ces politiques de transport sont de plus en plus réglementées, hein, donc avec notamment des compétences que le Conseil régional a, que le Conseil général a également, et aussi la communauté d'agglomération. Donc on rentrera tout à l'heure dans le contenu précis, mais cette question nous semblait importante. S'il y avait un outil juridique à l'échelle du Pays Basque, c'est que la mise en cohérence de l'ensemble des politiques de transport à l'échelle du Pays Basque soit une compétence qui soit dévolue à cet outil juridique. Le deuxième domaine, c'est le développement économique. C'est que les dynamiques de développement économique, bon, il y a toutes les aides qui viennent du Conseil régional, que le Conseil général accompagne, que les intercommunalités organisent également. Et là, il nous a semblé important que notamment tous les financements aux entreprises et l'appui à la définition des politiques publiques dans le domaine économique relèvent aussi d'une compétence majeure de cet outil juridique qu'il nous faudrait à l'échelle du Pays Basque. Troisième élément, c'est l'agriculture. L'agriculture, c'est un secteur clé de l'économie de ce territoire. Et dans ce domaine, pareil, même si l'agriculture est un domaine qui est très réglementé et très... je dirais, sous pilotage de l'État en direct et des politiques européennes. Il nous semblait important que la question du développement agricole, du type de développement agricole et des politiques publiques qu'il y a à organiser dans ce domaine-là puisse être aussi la résultante d'une réflexion et d'un positionnement clair d'une collectivité ou d'un outil juridique du Pays Basque. Le tourisme, quatrième domaine important, c'est que c'est un territoire, je dirais, où le tourisme est un enjeu important, est une activité économique importante, qui nous semblait également que dans ce domaine-là, cette collectivité ou cet outil juridique ait une compétence dans le domaine de la définition des politiques touristiques et de l'appui aux projets dans ce domaine. La langue basque, bon, ça paraît évident, c'est que la définition d'une politique linguistique et l'affectation des moyens pour développer une politique publique dans le domaine de la langue basque relève aussi des compétences de cette collectivité. Idem pour la culture au sens global du terme, pas que la culture liée au patrimoine ou à la culture basque, mais c'est l'ensemble des politiques culturelles, puissent relever aussi des compétences de ce niveau. Avant-dernier domaine prioritaire, c'est le logement. Je ne reviens pas sur les difficultés qu'il y a dans ce territoire, dans le domaine du logement. Donc, c'est une compétence importante. Et la coopération transfrontalière. De l'autre côté de la Bidassoa, on a des acteurs importants, des institutions qui ont des compétences importantes. Comment on développe des partenariats avec ces collectivités. Aujourd'hui, en l'absence d'un outil juridique, ça paraît difficile de pouvoir élaborer des politiques transfrontalières. C'est dans ce sens-là qu'il nous a semblé important que la compétence transfrontalière soit une compétence de cette collectivité. Voilà les 8 domaines prioritaires. On pourra rentrer dans le détail, on a du contenu à vous proposer là-dessus si vous le souhaitez. Ensuite, donc ces 8 compétences, ce sont les compétences que l'outil juridique Pays Basque devrait piloter en direct. Que cet outil juridique ait les compétences dans ce domaine-là, comme vous le savez, au niveau d'une commune, quand vous avez une compétence, ça veut dire que vous délibérez dessus, vous affectez du budget dessus et vous réalisez des opérations. C'est dans ce sens-là. Ensuite, on avait dans nos travaux également serré, il y a d'autres domaines, dans le domaine de l'aménagement, de la formation, de l'enseignement supérieur, etc., où il nous semblait important que cette collectivité ou cet outil juridique ait des compétences pour coordonner. Ce n'est pas tout à fait la même chose qu'assumer une compétence en direct ou le piloter. Là, c'était plus la coordination de politiques publiques. Je passe rapidement. On pourrait y revenir si vous le souhaitez. Ensuite, sur les autres éléments, Jean-Jacques Lasserre l'a évoqué, sur les 3 scénarios d'organisation. Qu'est-ce qu'on a dit pour aller à l'essentiel. Le premier scénario qu'on a examiné, c'est le maintien de l'organisation associative actuelle. C'est dans le débat au sein du Conseil des élus, notamment, il y a un certain nombre d'élus qui au départ, disaient « Mais bon, on peut garder le dispositif associatif actuel, c'est-à-dire concrètement aujourd'hui, le Conseil des élus, c'est une association, loi 1901. Le Conseil de développement, pareil. Et le Conseil des élus, son devenir, parce que c'est plutôt son devenir qui est derrière ces 3 scénarios, certains disant « Le maintien » du statu quo, c'est-à-dire le maintien d'un conseil de développement sous forme associative, peut-être ça vaudrait le coup de l'examiner, quitte à lui donner un peu plus de moyens. Alors qu'est-ce qu'on a dit par rapport à ça? Les points forts du système associatif, c'est que c'est souple, c'est-à-dire c'est un mode qu'on connaît depuis 20 ans, qui est pratiqué, donc on ne découvre pas grand-chose là-dedans. C'est surtout la souplesse par rapport aux délibérations des collectivités publiques, c'est la souplesse qui est mise en avant comme étant un élément important. La faiblesse ou les limites, c'est que ce que je disais tout à l'heure, c'est que la perte d'adossement juridique, le fait que les pays disparaissent un petit peu de la loi, cette perte d'adossement juridique, il relativise fortement l'autorité, institutionnelle du Conseil des élus. Donc, sous forme associative, il pesera encore moins. S'il n'évolue pas, d'un format associatif vers un format plutôt qui relève du public, Ça paraît difficile et sa fragilité, elle était clairement identifiée. Alors, les conclusions des experts, notamment juridiques, là-dessus, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous ont dit, votre modèle associatif, il est très, très bien, il est très adapté, mais si vous voulez rester uniquement pour faire des études ou pour faire de l'animation, etc., etc. Mais dès l'instant où vous voulez assumer des responsabilités, vous voulez assumer des compétences, votre forme d'organisation associative, elle n'est plus adaptée. Donc, il faut franchir un cap. Et pour les positions exprimées au sein du Conseil des élus et du Conseil de développement, Jean-Jacques Lasserre l'a dit tout à l'heure, c'est que pour la plupart des membres, ce scénario, il est dépassé. C'est-à-dire qu'il a été adapté jusqu'à présent, maintenant il atteint ses limites, il faut franchir le cap. Voilà. Pour votre indication, au moment où le Conseil des élus s'est positionné le 24 novembre sur la forme juridique, sur 41 votants, il y en a trois qui se sont positionnés en faveur, je dirais, de cette solution sur 41. La seconde solution qui a été examinée, c'est s'il fallait passer du format associatif vers un format qui a un peu plus de cadre juridique public, c'est la création d'un établissement public. Alors, un établissement public, ça peut être des syndicats mixtes, ça peut être des groupements d'intérêt public, ça peut être aussi une forme qui est évoquée depuis la loi de 2010, c'est les pôles métropolitains. Peut-être que le nouveau projet de loi va créer aussi de nouveaux types d'établissements publics. Voilà, l'idée est la suivante, c'est que ces établissements publics, c'est quoi concrètement, si on devait les appliquer à l'échelle de notre territoire, c'est essentiellement que les intercommunalités de ce territoire créent entre eux un outil public pour gérer ensemble un certain nombre de compétences et doter ce syndicat mixte ou ce GIP d'un certain nombre de compétences qui puissent exercer pour le compte, je dirais, des intercommunalités. L'hypothèse étant aussi dans le débat, pourquoi ne pas associer au-delà des intercommunalités, dans cet outil public, le département, la région, qui pourrait aussi confier à cet outil public un certain nombre de compétences. C'est un format qui a été imaginé. Alors, les conclusions des experts, et Jean Gourdou précisera un peu plus tout à l'heure, l'hypothèse d'un syndicat mixte, qui juridiquement est très, très bordé, ne paraît pas adaptée pour notre cas en raison d'obstacles juridiques. En général, un syndicat mixte, il est créé pour gérer un domaine de compétences particulier. Par exemple, la gestion des déchets. Vous voyez, c'est un domaine sur lequel on crée un outil type syndicat mixte ou les politiques de l'eau ou des choses comme ça. C'est-à-dire, c'est dans un domaine bien précis, pour gérer des compétences dans un domaine bien précis, qu'on crée un syndicat mixte. Dès l'instant où on doit gérer plusieurs types de compétences, et on les a vues tout à l'heure, économie, culture, langue, etc., le syndicat mixte ne paraît pas l'outil adapté. On a examiné l'idée des pôles métropolitains. Le pôle métropolitain qui a été créé, c'est un syndicat mixte qui a été créé par la loi de 2010, qui regroupe exclusivement des intercommunalités, mais plutôt sur des problématiques urbaines. Et il nous a semblé que cet outil, pôle métropolitain, peut-être que les communautés des communes de l'intérieur des Pays Basques ne se retrouveraient pas facilement dans cette proposition juridique. Et on pourrait y revenir tout à l'heure. L'idée d'un groupement d'intérêt public, les experts nous disaient, n'est pas à exclure, mais il conviendrait alors qu'une loi crée un statut très dérogatoire de ces GIP, sachant que les GIP existants, bon, ne répondent pas bien, je dirais, à la spécificité et à l'ensemble des compétences que nous avons imaginées pour cet outil Pays Basque. Voilà. Mais c'est peut-être un cadre à ne pas exclure. Position exprimée au sein du Conseil des élus, Conseil de développement, bon, ces outils n'apparaissent pas comme une solution appropriée pour une majorité des membres du Conseil de développement et du Conseil des élus. Et lors du vote du 24 novembre, cette proposition de création d'un syndicat mixte, sur 41 votants, il y a un élu qui a voté en faveur de cette solution. Troisième scénario qu'on a examiné, c'est l'évolution vers une collectivité territoriale. Alors, concrètement, une collectivité territoriale, c'est quoi ? La Constitution définit les collectivités territoriales. Alors, il y a trois collectivités territoriales qui sont très connues. C'est la commune, c'est le département, c'est la région. La Constitution prévoit pour chacune de ces catégories de collectivités les compétences qui sont attribuées. Et depuis 2004, il y a une quatrième catégorie de collectivités territoriales qui existe dans la Constitution. C'est ce qu'on appelle la collectivité territoriale à statut particulier. Le cadre, il est identifié, mais on peut y mettre à la limite ce qu'on veut dedans. Ça veut dire que les compétences, on peut les mettre un peu à la carte, on peut les adapter. L'Assemblée d'élus, on peut le définir de façon particulière pour cette collectivité, ainsi que le budget. Ça veut dire que c'est un cadre que la Constitution autorise et dans lequel on peut mettre les compétences que l'on souhaite. Mais ça nécessite, bien entendu, une loi pour créer cette collectivité territoriale à statut particulier. Donc, dans les travaux que nous avons conduits, c'est plutôt cette voie qui nous a intéressés. Jean Gourdou va développer tous les travaux qu'on a faits, les exercices ou les hypothèses même de type de collectivité territoriale qu'on a travaillé. Et c'est autour de ce choix que le Conseil de développement et le Conseil des élus se sont positionnés, puisque le Conseil des élus, sur 41 votants, il y en a 38 qui ont voté pour cette forme d'organisation. Alors, voilà pour l'essentiel. Ce que nous ont dit les experts à ce niveau-là, c'est que la collectivité territoriale, c'est certainement l'outil juridique qui nous permettrait de mieux répondre aux aspirations qu'on avait définies préalablement. Hein, les fameuses 8 compétences là, qu'on a identifiées, ils nous ont dit, s'il fallait caler un dispositif juridique pour traiter ça, mais c'est le cadre d'une collectivité territoriale à statut particulier qui répondrait le mieux. Mais en même temps, ils nous ont dit, sachez que ça... Vous pouvez vous le demander, mais pour le mettre en place, il faut que le Parlement vote une loi pour créer un outil comme celui-là. C'est d'ailleurs le cas pour la métropole de Lyon, Jean-Jacques Lasserre l'évoquait, dans le projet de loi qui va être débattu sur l'acte 3 de la décentralisation. La métropole de Lyon, qui veut exister dans la cour des grands au niveau de l'Europe, adopte ou a négocié avec le gouvernement la création d'une collectivité territoriale à statut particulier pour la métropole de Lyon, une collectivité qui aurait les compétences à la fois de la communauté urbaine ancienne, plus l'ensemble des compétences du département, plus, par négociation avec la région, un certain nombre de compétences de la région Rhône-Alpes. Voilà, ça me paraît important de le positionner. Voilà, donc, sur l'hypothèse de cette collectivité, j'ai dit le Conseil de développement du 5 avril avait adopté déjà un avis pour évoluer vers cette collectivité. Le Conseil des élus, au mois de septembre dernier, il avait déjà fait une proposition au Sénat et à Madame Le Branchu pour qu'on étudie cette hypothèse. Et le 24 novembre, l'Assemblée générale du Conseil des élus a délibéré en faveur d'une collectivité territoriale à statut particulier. Et je te passe la parole pour qu'on rentre plus dans le contenu.